Bien, vous avez été courageux ce matin de venir ici dans cette salle et vous n'avez pas été tenté par l'appel des sirènes, des bateaux, ou des cornes des bateaux, et que vous avez été sensibilisé pour venir au milieu de nous, offrir le culte qui soit agréable. Oui, c'est vrai, ce matin, il y a beaucoup d'absents, mais... J'ai envie de dire, les meilleurs sont là, quoi. Vous ne leur répéterez pas à ceux qui sont absents. Hein. C'est brutal. Donc, béni soit le Seigneur encore de ce que nous pouvons méditer la parole de Dieu. J'ai un temps extrêmement long ce matin pour pouvoir prêcher. Et c'est pour ça que ma prédication sera courte, pour vous laisser l'occasion d'aller faire un tour, non pas sur les pontons, mais peut-être sur la côte pour aller voir les bateaux si vous le souhaitez. Donc je vous invite ce matin à aller dans le Nouveau Testament et notamment dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Et au verset 2. Tout au début, au verset 1, Paul nous dit que la grâce et la paix vous soient données. Et ce matin, je vous dis aussi à vous tous qui êtes là, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès que nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je retiendrai dans cette lecture le verset 9, où il nous est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir Dieu. Là, il dit pour servir le Dieu vivant et vrai. J'ai intitulé ce matin ma méditation « Servir et servir ». Ça ne vous choque pas? Bien. Peut-être que vous dites « il a peut-être oublié quelque chose dans le titre ». Habituellement, on pourrait dire « servir, se servir » ou « être servi ». Mais non, ce matin, ce n'est pas ma pensée. J'ai bien intitulé « Servir et servir ». Alors pourquoi, vous allez me dire, et peut-être me poser la question ce matin, mais pourquoi as-tu choisi ce titre? Bien parce que je crois que il y a différentes formes de service et différentes formes de servir Dieu. L'apôtre Paul, avec ses collaborateurs dans la plupart des épîtres, mentionne que certains servent en faisant le maximum d'efforts pour faire ce qui est agréable à Dieu. Parfois, on leur impose, ou ils s'imposent, toutes sortes de règles, de préceptes, et sans doute bien d'autres choses. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 20, nous montre cette obligation de servir en respectant toutes sortes de règles déjà énoncées par l'apôtre Paul, mais aussi des règles qui sont aussi astreignantes, que Paul nous rappelle aussi en Timothée. Et c'est pourquoi il est dit, si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Mais cela pourrait s'adresser aussi à nous, puisque nous ne sommes plus du monde. Et il arrive peut-être que parfois on nous impose des choses où on nous dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors peut-être, vous allez me dire, oui, mais ça c'était sous l'ancienne alliance, c'est ce que l'apôtre Paul veut parler, la loi. Mais je ne pense pas qu'il nous parle que de cela. Certes, il pouvait parler de la loi ancienne, de l'ancienne alliance, mais il parle aussi de ces efforts que nous accomplissons pour plaire à Dieu, mais parfois pour plaire aux hommes. Oui. Et cela à travers nos œuvres, à travers notre service. Certes, Paul parlait des lois religieuses que les hommes s'imposent pour plaire à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre propre vie, est-ce que ça a une signification, plaire à Dieu? Est-ce que vous êtes persuadé que ce matin, vous qui êtes ici, vous plaisez à Dieu?
Amen.
Oui. Vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Et c'est ce qui est l'important. On ne vous a pas forcé. On ne vous a pas imposé. Vous avez fait le choix d'être là ce matin, de partager ce moment, de chanter, de prier, de louer, d'entendre la parole. Mais c'est vrai que je me souviens, à une époque déjà, pour moi qui ai révolu, où l'on nous disait, il faut que tu lises ta Bible, au moins une demi-heure par jour. Il faut que tu pries au moins une heure par jour. Il faut que tu jeûnes, sinon une fois, mais deux, ça serait bien par semaine. Et puis surtout, il faut que tu donnes ta dîme. Alors, non, pas tous les ans, mais toutes les semaines, ou tous les mois. Et peut-être que vous avez fait ces choses pendant des années, Moi, je les ai faites pendant des années. Et tout ça parce que je voulais plaire à Dieu. Je voulais obéir à ce que l'on me demandait. Et c'était devenu comme une routine, une habitude. Ouais. Mais je me dis, avoir fait ça pendant des années, je l'ai fait à travers des efforts. Peut-être par moments, l'effort était facile, d'autres moins. Alors, entendez bien ce matin, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas donner sa dîme. Mais c'est en conscience avec mon Dieu. C'est en conscience avec mon Seigneur. Oui. Je vois mal Fabien me dire Gérard, il faut que tu pries un petit peu plus, quoi. Hein? D'ailleurs, elle ne le fera pas. Non, non. Ou peut-être il faudrait que peut-être dans ce domaine-là, tu sois un peu plus présent. Non, je ne crois pas. Non. Quel est mon service? Comment je sers Dieu? Alors, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je sers Jésus-Christ? Est-ce que je sers l'Église? Est-ce que je sers les hommes? Voilà beaucoup de questions qui peuvent se poser à nous. Mais quand c'est l'homme qui prend le pas, alors là, attention. Oui. Derrière cette forme de service se cache souvent la pensée, plus ou moins avouée, que nous pouvons peut-être obtenir les faveurs de Dieu si on fait les choses que je viens de dire. Je l'ai entendu déjà cela. Oui. Dieu est content quand tu pries, Dieu est content quand tu lis, Dieu est content quand tu jeûnes. Mais est-ce qu'on a besoin de jeûner pour Dieu? Dites-moi voir. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il a besoin, Dieu, de nos prières? C'est nous qui avons plutôt plus besoin des siennes. Non? Eh oui. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire du fils prodigue? Mais vous connaissez peut-être moins l'histoire du fils aîné, qui est dans la même parabole. Quand il dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Dans quel service il était? Dans Luc, ma sœur, si tu cherches, 15-29. Oui, c'est cela. Il y a tant d'années que je sers Dieu. Qu'est-ce que vous attendez au bout de cela? Tu ne m'as pas donné un chevreau. Pourtant, il était sûr d'être l'héritier. Combien, malheureusement, de croyants servent Dieu en pensant « J'espère qu'avec tout ce que je fais et tout ce que je fais pour Dieu, Dieu sera content de moi, hein, et qu'en retour, j'aurai sa faveur. » et que si je prie une heure de plus, alors Dieu va m'exaucer. L'autre forme de service consiste non pas à faire, mais à laisser Dieu faire au travers de nous. Dans son épître, l'apôtre Paul, aux Philippiens, chapitre 3, il parle d'abord des œuvres pour Dieu, de son zèle, de son service accompli sous la loi. Ensuite, il parle de sa nouvelle vie, de son service pour Jésus et surtout avec Jésus, car il termine par ces paroles qui m'ont toujours interpellé. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 12. Et il dira par ailleurs, et ça, c'est quelque chose de fort. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà la différence. Christ en lui, Christ en nous. Et si nous vivons en Christ, mes frères et sœurs. Et tous ces états de service ne sont plus que des expressions de Christ en agissant à travers lui et en lui. Nous ne cherchons pas, et il ne cherchait pas les faveurs de Dieu, aucunement, mais c'est Dieu qui lui fait la faveur de se servir de lui. Et voilà toute la différence. C'est Dieu qui fait la faveur à l'apôtre Paul de se servir de lui. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous laissons Dieu se servir de nous? Et non pas d'inventer des choses et des choses pour servir Dieu. C'est vrai qu'on peut être très prolifique dans le service pour Dieu, mais est-ce que c'est bien ce que Dieu nous demande pour son service? C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et le sage Salomon a écrit : si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, veille en vain. Psaume 127. En disant cela, Salomon souligne le fait qu'il est possible de servir sans que Dieu soit à l'origine de ce service. Et qu'il ne soit pas présent dans ce service. Il nous dit, c'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui a dit, je bâtirai mon église. Alors parfois, nous nous agitons pour bâtir la maison de Dieu. Nous y mettons des moyens, nous y mettons des hommes, nous y mettons des projets. mais avant tout, pour que ce soit le projet de Dieu. Et Dieu utilisera les hommes à son service pour ce projet. Alors, bien entendu, il faut venir au bout de la truelle, au bout du marteau. Il faudra bien toujours quelqu'un. Et même pour garder la ville, il faudra sans doute une sentinelle, oui, bien entendu. Mais je le rappelle, c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui garde, mais il va se servir et il se sert de toi. Ce n'est pas toi qui bâtis en disant à Dieu, sois dans mon projet, mais c'est Dieu qui bâtit et qui te dit, sois dans mon projet à moi. Oui, nombreux ont été ceux qui ont voulu bâtir pour Dieu. Nombreux sont ceux aussi qui veulent servir Dieu. Et souvent on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Mais souvent quand il faut démarrer quelque chose, il n'y a plus grand monde. Alors, bien entendu, le texte nous dit que dans ce cas, c'est en vain que l'on sert. C'est pourquoi la suite du texte de Salomon met en évidence cette parole. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Restez au lit, Dieu vous bénit. Vous y croyez pas, vous? Que Dieu vous bénisse pendant la nuit?
Oui.
Et si, moi je crois que Dieu me bénit pendant la nuit. Moi je suis persuadé, c'est une parole de Dieu. Et oui. Ce verset nous dit que servir en étant sous une loi, en cherchant la faveur par notre service, génère forcément, et vous le savez bien parce que vous l'avez vécu vous aussi, des insatisfactions, des frustrations, de la souffrance, de la douleur. Et servir Dieu comme cela, de cette manière-là, oui, ça engendre de l'insatisfaction, de la frustration et des douleurs. Et on n'est pas satisfait. On ronge son frein, comme on dit. On rumine. On n'est pas très satisfait, on n'est pas très content. Alors, laissez Dieu agir pour qu'il se serve réellement de vous, qu'il vous régénère, et j'ai envie de dire, pour appuyer un peu plus, même dans votre repos. Le fait de savoir que c'est Dieu qui se sert de nous et non nous qui servons Dieu, nous amène à rester dans une position d'humilité. Vous savez, je ne sais pas, mais dans l'être humain, il y a de l'orgueil. Peut-être plus chez vous, il n'y en a peut-être plus. Mais parfois, je sens qu'il y a des relents d'orgueil qui veulent monter. Surtout quand vous avez fait quelque chose et que vous avez réussi. C'est moi qui l'ai fait. Hein? Et je suis très heureux de l'avoir fait. Oui. Mais qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle de construction et notamment la construction de l'Église? On trouve cela dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Qu'est-ce que donc Apollos Qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et oui, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et on note bien ce matin, il est bien dit que celui qui est quelque chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui fait croire. C'est lui qui donne la réussite. C'est lui qui bénit. C'est lui qui prend soin de sa maison, de son édifice. C'est lui qui bâtit en se servant des hommes comme nous, des femmes comme vous et moi. Oui. Et qui accepte d'être à sa disposition. Être ouvrier avec Dieu signifie avant toute chose que nous devons avant tout être avec. Avec Dieu. Et Dieu, et non pas Dieu avec nous. C'est cela la différence. Être ouvrier avec Dieu signifie avant toute chose que nous sommes, bien entendu, en Dieu, notre Sauveur. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, découvrons tout ce que Dieu veut faire et peut faire si nous nous abandonnons pleinement dans une réelle communion avec lui, communion qui repose entièrement sur sa grâce et non plus même sur l'infini et l'infime partie de nos œuvres. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. Servons le Dieu de l'œuvre. C'est ce qu'un pasteur une fois m'avait dit il y a bien des années de cela. Servons le Dieu de l'œuvre et non pas l'œuvre de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Que Dieu vous bénisse.